Bonjour chers amis, frères et sœurs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu la chance de voir mes amis. Aujourd'hui, je les ai vus et je n'ai pas eu non plus la chance de pouvoir les saluer comme il fallait, c'est-à-dire avec un bourhak et comment ça va, etc. On va se reprendre. Partie remise. Comme ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu la chance de vous voir, je voudrais juste vous demander d'où vous venez, puis tout ça. Alors, donc aujourd'hui, on est le 9 juin 2013 et nous sommes ici ensemble à la Maison de Pleine Conscience, Institut de Pleine Conscience Appliquée de Montréal, pour une journée très importante, une journée de pleine conscience, une journée où que nous nous sommes donnés pour vivre. How about that? Je vais vous... Wow, et puis on a un beau soleil. Super. C'est très important une journée qu'on se donne pour pouvoir vivre. Parce que si les journées qui nous sont données ne sont pas faites pour vivre, pourquoi elles existeraient? Alors donc, cette journée, c'est une journée que je me suis donnée. Pas que je me suis donnée, qui m'est donnée par beaucoup de conditions. Et que je reçois avec beaucoup de gratitude et de bonheur, et que je me suis promis de vivre de façon à bien la mériter. Et la seule façon de pouvoir vivre et bien la mériter, c'est de la vivre. De la vivre pleinement. De la vivre intensément, de la savourer, de la goûter, de la vivre. Et c'est ce mot qui devrait, que je devrais juste avoir utilisé, vivre cette journée. Mais comme ce n'est pas ma langue, et comme je sais aussi que les mots peuvent signifier ce qu'ils peuvent bien signifier, c'est-à-dire qu'ils prennent le sens qu'on veut bien leur donner, ou le sens qu'on s'est habitué à les comprendre. Et donc, je nous invite aujourd'hui à penser à ce mot, vivre. Et on aura la chance d'en reparler cet après-midi lorsque nous aurons notre session d'échange. Mais pour moi, je n'ose pas parler de mon âge, parce que je sais que je suis quand même, je me retrouve dans la moyenne ici, je pense. Mais dans quelques autres environnements, je suis vraiment le vieux. Et donc, je me le fais rappeler constamment par mon entourage et aussi par ma pratique de pleine conscience des sensations et de ma pratique de la pleine conscience du corps dans le corps. Alors mon corps me rappelle constamment que je n'ai plus 20 ans, quand je dois me réveiller à 3 heures du matin pour aller faire pipi, ou quand je m'essouffle après 5 minutes de tennis avec ma femme, ou etc. Alors donc, la vie commence à prendre un autre sens un peu plus aigu. Et cette sensibilité à l'impermanence est aussi très présente. Le nombre de mes amis qui pètent arrive très souvent maintenant. Alors là, je me dis, les occasions où je revois mes anciens amis, c'est quand ils sont dans un cercueil ou quand ils fêtent le baptême de leurs petits-enfants. Et donc, cette sensation d'urgence est encore plus présente. Et donc, je n'ai plus cette excuse de remettre au lendemain. Et il est très important pour moi maintenant de faire de chaque jour une journée qui compte. Et je ne sais pas si j'en aurai encore 2000 à vivre, ou deux, ou cinq. Je voudrais vraiment pouvoir vivre chaque jour de ma vie. Vivre de façon à ce que ça en vaille la peine. Vivre de façon à ce que je puisse m'en aller sans regret, sans remords, sans avoir à dire j'aurais dû ou j'aurais pu. Et être juste présent, content, heureux de ce qui s'est passé et heureux d'accueillir ce qui va arriver à chaque instant. Et c'est cette invitation que je voudrais vous faire aujourd'hui. Faisons de cette journée une journée que nous nous donnons pour vivre. Vivre de manière à bien la mériter. Vivre et profiter de chaque instant qui nous est donné. Vivre et savourer chaque respiration. Vivre et s'émerveiller à chaque pas qu'on peut faire. Vivre la journée. Ça va? Ok, good. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, juste par show of hand, qui nous vient ici pour une première fois? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bienvenue. Wow, super. Comment vous avez su pour la journée? Comment avez-vous appris pour... D'accord. Good. Ça va être la meilleure. Oui, puis. Oh, ok, bienvenue. Bienvenue. C'est qui votre ami? Vous la connaissez? Bravo, bravo. Oui, vous aussi. Oui, je pense que c'est une très très belle façon de s'introduire à cette pratique par des cours du soir pour vous donner un aperçu des pratiques que nous faisons et se donner une journée pour pouvoir la mettre en pratique ou l'expérimenter afin de mieux l'intégrer, mieux la comprendre. Et donc, bravo, merci. D'autres cas? Ok, merci. Pardon? Sorel. Bonjour. La capitale de l'acier, c'est ça? Oui, j'ai souvent fait cette autoroute aussi. très dangereux l'hiver. Et donc aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, c'est le jour du jour. Et des fois, lorsque mon maître, c'est Tetnikhan, commence sa retraite, à chaque fois qu'il donne un enseignement et qu'il y a des enfants, des jeunes personnes, il les invite tous pour être avec lui et il s'adresse aux enfants. Et la question qu'il leur demande souvent, c'est « Sais-tu c'est quoi cette journée ?» Alors, des fois, c'est la journée de... « Hey, la journée des pères arrive. Avez-vous pensé à moi ?» Alors, donc, c'est la journée des secrétaires, la journée des mamans, etc. Et Tyler a invité à célébrer la journée, n'importe quelle journée où il est avec eux, comme la journée du jour. En fait, je traduis parce que c'est the day of the day. Today is today's day. Alors aujourd'hui, c'est la fête du jour. Et la fête du jour, ça veut dire que c'est un grand événement et nous célébrons la journée du jour. Alors, today is today day. Alors, aujourd'hui, dimanche, le 9 juin, est une autre de ces journées du jour. Et la célébration commence avec le réveil. Je me lève en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles et les recevoir comme un grand cadeau. Et je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience, parce que je sais que si je ne suis pas là, si je ne suis pas conscient, les minutes, les heures et la journée vont passer au complet. Et ce sera une autre de passer, mais aussi une autre de perdu. Alors, dès le matin, je me rappelle, je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience, les 24 heures. Vivre dans la pleine conscience, 24 heures. Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. Et c'est un très grand enseignement, regarder les êtres avec les yeux de la compassion. Nous parlons des lunettes que nous portons. Et nous teintons notre vie et notre environnement en fonction de la teinte de nos lentilles. Et j'aime beaucoup maintenant les lentilles colorées. Et j'avais dit à ma fille, « Hey, comment est-ce que tu me verrais avec les yeux bleus ?» J'ai toujours voulu avoir les cheveux blonds et les yeux bleus. Alors maintenant, c'est possible. Là, les cheveux commencent à grisonner, donc... Mais, dépendamment des lentilles que nous portons, ça teinte toute notre vie. Et donc, le bleu, ça peut faire, mais le rose, c'est encore mieux. Alors, la vie en rose, waouh, super. Quand il me prend dans ses bras. Le problème, c'est que lorsqu'il n'est pas là pour nous prendre dans les bras, là, tout d'un coup, ça devient... gris. Et comment faire pour que ça soit toujours rose? Et la seule façon de pouvoir faire en sorte que ça soit toujours rose, c'est de se le faire soi-même. Et c'est une pratique qui s'appelle l'amour de soi. Self-love. Et c'est ma pratique. L'amour de soi. Et dans mes dernières retraites, en fait, ça, je pense que ça a été toujours ma pratique et ma carrière. Et je n'arrête pas de claironner ce message partout où je vais. Et je dis à tout le monde que je rencontre, prenez soin de vous. Je donne des ateliers maintenant qui s'appellent self-care. Je donne des ateliers qui s'appellent self-healing. Self. C'est toujours soi. Et c'est ce que je fais et ce que je vous invite aussi à faire, à vous l'offrir. Mais aujourd'hui, cette journée, c'est une journée pour vous. Vous êtes occupé toute votre vie de tout le monde. Vos enfants, votre chien, votre chat, votre belle-mère, et j'en passe. Mais c'était quand la dernière fois que vous êtes occupé de vous? J'ai rencontré une tante, elle a 78 ans. Elle a perdu son mari il y a quelques années et je l'ai vue lors de ses funérailles. Et je suis resté quelques jours avec elle pour la soutenir. Et avant que je l'ai quittée, elle m'a fait une promesse que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, tu sais, je me suis aperçu à 78 ans que j'ai passé toute ma vie à m'occuper des autres et que je ne me suis jamais encore occupé de moi. Lorsqu'elle se lève le matin et qu'elle se maquille pour aller au travail, ce n'est pas pour elle qu'elle le fait. Elle le fait pour... parce qu'elle doit le faire pour être au travail, pour être présentable. Alors même ça, ce n'est même pas pour elle. Et quand elle a refait son bilan de vie, c'est ça qu'elle s'est aperçue, c'est que j'ai passé ma vie à faire des choses à cause ou pour les autres, mais je ne me suis jamais occupé de moi. Et là, je lui ai dit, maintenant que vous le savez, est-ce que vous pensez pouvoir le faire? Elle a dit, oui, je vais essayer. Et je l'ai revue, et puis elle m'a dit, tu sais, c'est tellement difficile. Et aujourd'hui, je peux te dire que le seul temps que je me donne, c'est le temps où je fais mon tai chi chaque matin, 45 minutes. Et je le fais religieusement parce que je sais qu'après ça, ça va être ok, je vais aller rencontrer telle personne, je vais aller, puis ça va être encore. Donc, se donner une journée, en tout cas la promesse que je me fais, la promesse que vous êtes en train de, que je vous invite à vous faire, n'est pas une promesse facile à faire, mais essayons. Essayons pour cette journée pour voir comment nous pouvons le faire. Et donc, regardez tous les êtres avec les yeux de la compassion. Tous les êtres, on est habitué à le faire. En fait, on regarde tous les êtres des fois avec des yeux de compassion, puis des fois avec d'autres yeux, mais on est très habitué à regarder. Et dans certains domaines, on est très très bon aussi à regarder les autres avec les yeux de la compassion. Donc, on peut le faire. Mais se regarder, ou bien nous inclure dans ces êtres-là et pouvoir nous regarder nous-mêmes avec les yeux de la compassion, c'est quelque chose qui est peut-être un peu nouveau comme pratique, mais c'est la pratique qui s'appelle le retour chez soi. Alors lorsque vous revenez ici et que vous voyez que je suis chez moi, je suis arrivé, c'est aussi cette pratique, c'est de retourner, de regarder vers l'intérieur et de se regarder. Quelques questions que j'ai posées à mes amis lors des dernières retraites aux États-Unis. Une question qu'un roi ou un empereur en Inde a demandé à sa femme. Peux-tu me dire quelle est la personne qui t'aime le plus? Si je vous posais la question, quelle serait votre réponse? Qui est cette personne qui vous aime le plus? Vous osez dire ça Oh, ça c'est très très égoïste, c'est pas bon, vous allez aller en enfer. Il faut penser aux autres. Alors merci beaucoup. Mais c'est une réalité. Et nous sommes nés avec ça. Nous sommes nés avec ce qui s'appelle l'ego. Nous sommes nés avec ce sens de préservation. Et Dieu merci, c'est ce qui nous a tenus jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans cet amour pour soi, on arrêterait de respirer, puis on se laisserait partir, puis on serait parti depuis très longtemps. Ce premier cri, cette première pleurs, ces premiers pleurs, c'est cet instinct de survie. Et c'est cet amour de soi. Et c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le reconnaître et c'est l'accepter. Et c'est le célébrer et le vénérer. Alors donc, on s'entend, nous sommes la personne qui nous aimons le plus. Et parce que nous nous aimons, nous voulons que du bien. Non? Il me semble que si j'aimais quelqu'un, je ne lui voudrais que du bien. Et donc, si je me dis que je m'aime, je devrais ne me donner que rien que le mieux. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je sais comment le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je sais le faire? Je ne sais pas. Et j'ai posé une autre question. Alors vous voyez, il y a plein de questions que je vous ai posées, mais la question la plus importante. Qui est votre pire ennemi? Et c'est aussi malheureusement la réponse que j'ai eue. Et à l'aube de mes 60 ans, vous connaissez cette chanson? Maintenant je sais. Je sais que je ne sais rien. Mais je me suis aperçu que j'étais génial. J'étais super. J'ai excellé. Me martyriser, à me punir. Et je connais personne qui aurait pu mieux le faire que moi sur moi-même. Et je ne connais personne qui aurait pu le faire aussi bien pendant tout ce temps sur moi-même. J'ai failli mourir d'une dépression à 32 ans. En fait, j'appelle ça dépression parce qu'on ne savait pas comment l'appeler dans le temps. Mais ça, c'est surtout un burn-out. Et c'est comme ça que je me suis traité. C'est ces choses-là que je me suis infligé. Et c'est pour ça aussi que je me suis trouvé tellement bon, habile, sournois, à pouvoir me rendre dans ces états-là. Et ça n'a pas fini là, ça a continué. Et donc notre pratique maintenant, c'est de nous souvenir de ces deux choses-là. Je suis la personne qui m'aime le plus, mais je peux être aussi mon pire ennemi. Et si je veux tame, amadouer, tame, dresser, dresser le tigre, dresser le méchant, dresser le dragon, dresser le chimpanzé. Je dois être dans la pleine conscience et constamment me rappeler ces deux réalités. Je m'aime le plus, mais je peux être mon pire ennemi. Et pour ça, je me pose la question aussi souvent que je le peux. How does that feel? Comment vous sentez-vous? Comment te sens-tu? Qu'es-tu en train de faire? What are you doing? Pourquoi tu le fais? Et pour moi, c'est une pratique de pleine conscience. C'est la pratique de pleine conscience appliquée. Et c'est la pratique du bouddhisme engagé. Être présent, ici et maintenant, à chaque instant. Conscient de notre présence. Conscient que la vie est là. Conscient que tout est en train de se passer et que tout est merveilleux. Nous nourrir de cette chose-là parce qu'on se rappelle qu'on s'aime et qu'on veut se donner que ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir être assis et parler? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir voir avec ses yeux? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir entendre, écouter? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir marcher sur cette terre? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir respirer? J'inspire, j'ai beaucoup aimé la façon dont Gilles nous a guidés. J'inspire, je sens, j'inspire. Notre monde est un monde de sensations et nous pratiquons la pleine conscience des sensations dans les sensations. Et ce sont des sensations. How do you feel? Comment est-ce que vous êtes en train de vous sentir? Et être en contact avec ces choses-là et pouvoir se dire, this is wonderful, c'est merveilleux. Et c'est ça la pratique de l'amour. Et c'est ça la pratique de l'amour de soi. Se donner, s'offrir, se mettre en contact avec tout ce qu'il y a de merveilleux. Tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Tout ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Et c'est ça le cadeau. Et c'est ça nous regarder avec les yeux de la compassion. Et c'est ça que de se gâter. Et c'est ça que de se donner ce que nous méritons et ce que nous voulons nous offrir nous-mêmes. Que chaque instant soit un instant de bonheur. Que chaque instant soit un instant de grâce. Et c'est tellement facile. Juste revenir, inspirer, sentir qu'on est en train d'inspirer. Expirer et sentir qu'on est en train d'expirer. Entendre, écouter ce message. Je suis en vie. Je suis vivant. Je suis vivante. Je suis en train de vivre. C'est la meilleure nouvelle. Je ne peux pas imaginer une meilleure nouvelle que celle-là. Respire, tu es vivant. N'est-ce pas? Et c'est notre pratique d'être présent, en contact, réaliser, toucher cette réalité à chaque instant. Et c'est cela que j'appelle vivre une journée. Et pour moi, la signification de vivre, c'est être là présent. Parce que si je ne suis pas là, la vie n'existe pas. La vie est là seulement si j'y suis. Oups, je me suis échappé. J'aurais dû garder ça pour notre discussion d'aujourd'hui. Donc c'est une grande journée, c'est une journée spéciale. C'est une journée qui a commencé avec le réveil en souriant, la promesse de vivre cette journée dans la pleine conscience et regarder et se regarder avec les yeux de la compassion. C'est une autre grande journée, c'est une journée historique. Non. Ben, on peut faire une histoire avec. Mais c'est la journée aussi qui conclut notre série d'enseignements. Et cette année, nous sommes donné une grande mission. Nous avons étudié un grand sutra, un des plus grands sutras. Sutra, c'est enseignement du Bouddha. Le sutra avec lequel, qu'est-ce qu'on a fait? Le sutra du diamant. Alors vous voyez, le diamant, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui est clair, limpide, qui est tranchant. Et le nom est venu pour ce sutra, c'est premièrement parce que c'est précieux. Alors le sutra ou cet enseignement-là est précieux comme un diamant. Et c'est un diamant, c'est encore plus beau que celui, c'est quoi donc, Titanic? Ce truc que en tout cas je vois encore la photo de la fille avec ce truc, c'est quoi? Oui. Donc c'est encore plus précieux que ce que c'est quoi cette pierre? C'est une pierre bleue? Donc c'est un diamant et c'est précieux parce que j'arrête parce que je ne voulais pas commencer à faire de la discrimination. Mais comme on est en train d'étudier ce sutra, là je dis, bon, ben, c'est le plus beau, c'est le plus fin, c'est le plus précieux, c'est le plus... Mais l'année prochaine, quand je vais parler d'un autre, je vais encore dire la même chose. Alors donc, c'est le plus précieux pour cette année. Et c'est aussi un diamant parce que c'est dur, c'est tranchant. Et c'est un enseignement qui a la capacité de pouvoir trancher en travers de toutes nos illusions. Parce que ce sont nos illusions, ce sont nos perceptions, ce sont nos idées, ce sont nos concepts, ce sont nos croyances. Et tout cela, le mot « illusion », encore là, ça dépend de comment nous le comprenons, mais quand j'utilise le mot le diamant qui tranche en travers des illusions, je comprends fausse perception, je comprends fausse compréhension. Et lorsque j'utilise le mot faux, je suis aussi pris dans le piège des mots parce qu'il faut veut dire vrai, et vrai et faux, je rentre déjà dans le dualisme. Et lorsque je suis dans le dualisme et qu'il y a blanc et noir, je sais que je suis en train de m'égarer. Là, vous êtes mêlés. Moi aussi. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est amusant. C'est être mêlé. Accepter qu'on est mêlé et ne pas trop s'en faire. C'est correct. La plus grande difficulté que j'ai à enseigner au Québec, au Canada, aux États-Unis, un peu moins. Et ça fait 25 ans que je connais Lily. Et je l'apprends encore toujours. Non, pas toujours, des fois. Puis là, c'est... chaque fois, ça la choque parce que encore fou. Mais nous nous sommes formés à être, ben moi aussi, je suis ingénieur. Donc c'est vrai ou faux, c'est correct ou c'est pas correct, mais ça ne peut pas être les deux. C'est blanc ou noir, puis c'est 0 ou 1. Oui, mais how about 1 et 0? Les deux sont aussi la réalité. Pourquoi vouloir choisir? Ou bien prendre parti, ou bien... Et je suis en train de vous parler du Sutra du Diamant. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est lâcher le radeau. Mais lâcher le radeau, c'est seulement une partie de la chose. Pour moi, c'est tout lâcher. Le radeau, c'est un exemple. Le radeau, c'est une parabole pour nous montrer comment nous avons cette façon de penser. Cette façon de penser qui est ci ou ça. Et l'enseignement du Sutra du Diamant, c'est il n'y a pas de différence. Je pense que le lien n'est pas en train de se faire. J'essaie de me le faire maintenant, mais ça ne se fait pas. Je vais vous demander un peu de patience, ça va venir. Le texte de ce matin que nous avons lu. Nous suggère de lâcher prise. Nous suggère de garder l'esprit ouvert. Nous suggère de ne pas nous accrocher à quelque enseignement que ce soit. Parce que le danger de s'accrocher à ce radeau, le danger de s'accrocher à un enseignement, c'est d'en faire une doctrine. C'est de s'en rendre esclave. Et c'est aussi de perdre ou bien de nous priver de toutes les autres possibilités qui sont encore là et que nous n'avons pas encore eu la chance de toucher et de voir. Un exemple que notre maître nous a enseigné aux membres de l'ordre de l'inter-être, c'est d'être constamment en train d'étudier et de jamais prendre ce que nous... Excusez-moi, je vais l'éteindre. d'étudier toute notre vie durant. Ne pas prendre nos connaissances comme des vérités immuables. Parce que lorsqu'on est pris, lorsqu'on est arrivé au 10e échelon et qu'on reçoit la médaille ou la veste brune et qu'on pense qu'on y est, on vient de se faire mordre par le serpent du Dharma. On vient de se priver de toutes les autres possibilités qui peuvent suivre. S'accrocher au 10e et rester au 10e, nous ne pourrons jamais savoir ce que c'est que le 11e. Et c'est seulement en lâchant le 10e qu'on peut aller au 11e. Ben, on peut lâcher d'une main, puis prendre l'autre main. Il y a plein de ce genre d'enseignement. Le doigt qui pointe la lune. Un enseignement, ça indique une direction. Alors le doigt qui pointe la lune, c'est pas le doigt, c'est la lune. Et donc lâcher le radeau, laisser le 10e échelon, laisser le radeau, c'est toutes des exemples ou des illustrations que nous pouvons nous rappeler pour nous dire que chaque enseignement que nous touchons ou que nous, c'est une expérience, c'est quelque chose que nous pouvons recevoir. Recevoir. Qu'est-ce que vous faites d'un enseignement? Chacun a sa façon de faire, et puis c'est pour ça que là je demande, parce que comment tu ferais? Comment vous faites avec un enseignement? Ça, c'est un message pour Lily. Puis d'habitude, ça, elle est ici, elle prend des notes, mais il faudrait qu'on pense à quelque chose, soit en début d'année prochaine, comment étudier, comment recevoir l'enseignement, ou bien faire une journée une retraite urbaine juste pour ce thème-là. Comment est-ce que nous pouvons, comment nous voulons, comment nous pouvons, et c'est quoi la meilleure façon d'étudier ou de comprendre. Merci. Okay. Merci beaucoup. Je n'ai pas de méthode moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas de méthode fixe. Je reçois chaque enseignement comme un koan. Un koan, comme une méditation. L'enseignement ne me parvient pas toujours de Dhammatrok, d'un discours ou d'un enseignement du Dharma. Ça peut venir sous la forme d'une question. Question genre, qu'es-tu en train de faire? Et c'est une question que mon maître m'a posée il y a 25 ans. Et ce genre d'enseignement nous arrive à des moments de notre vie. Qui ne sont pas des hasards. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Les leçons sont toujours là. Le soleil est en train d'enseigner. Mais tout d'un coup, ce jour-là, un beau matin, je sais que je m'éveillerai. Différemment de tous les autres jours. C'est quoi cette chanson? En tout cas, je ne sais pas pourquoi ça me vient, c'est tout. Mais donc, ce matin-là, vous vous réveillez, puis tout d'un coup, vous... En tout cas, anyway. Et ces enseignements sont des... les enseignements qui nous arrivent... sont toujours à propos, sont toujours à point. Lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on est présent, nous recevons ces enseignements. Et ces enseignements sont toujours très appropriés, c'est-à-dire qu'ils sont... ils sont là pour répondre à la situation qui est là et qui est en train de se passer. Et dans les enseignements, il y a deux critères qui font qu'un enseignement est un bon enseignement ou non. Et le critère le plus important, c'est le critère de appropriateness. C'est quoi la traduction? Pertinence. Et pour moi, un enseignement pertinent, c'est un enseignement qui s'adresse à notre situation. Là, maintenant. Le même enseignement n'est peut-être pas vrai hier. Parce que c'était des conditions différentes hier. Et dans 3 jours, ça va être encore différent. Et lorsque je dis que ça peut être différent, ce n'est pas juste une possibilité. C'est sûr que ça va être différent. Je ne suis pas la même personne que j'étais à 20 ans. Je ne serai pas la même personne dans 5 ans d'ici. Et c'est pour ça que ce que je peux comprendre, ce que je peux étudier, ce que je peux recevoir, ne peut pas être la même chose non plus, ou bien même si c'est la même chose, ça ne sera pas la même chose, parce que je suis aussi là, et je suis un élément très important de cette, de ce processus de, que nous sommes en train d'essayer de comprendre, le processus de l'enseignement et de la transformation. Dans le thème d'aujourd'hui, lâcher le radeau. Je suis dans une situation. Je dois traverser cette rivière. Je prends les moyens qu'il faut pour pouvoir traverser la rivière. Une fois que j'ai traversé la rivière, je n'ai plus besoin de cet enseignement. Mais j'aurais peut-être besoin de quelque chose d'autre. Maintenant que j'ai traversé la rivière, ce serait pratique d'avoir, par exemple, une paire de sandales. Parce que là, je suis sur la terre, il y a des roches, il y a des trucs, et je peux me blesser. Alors, donc, ce serait peut-être intelligent de se confectionner des chaussettes ou bien des chaussures. Etc. Alors, donc, c'est vraiment en fonction de cela. Et un autre exemple aussi, lorsque nous pratiquons et que je parle des enseignements et des entraînements à la pleine conscience, je souris parce que je pense à Lily. Oui, mais vous aviez dit. Je dis oui, Lily, quand vous étiez à droite, je vous ai dit, pouvez-vous vous tasser un peu à gauche? Mais là, vous êtes vraiment trop à gauche. Alors là, je vous dis, allez sur la droite, s'il vous plaît, parce que vous allez... Non, ce n'est pas Lily, mais là, en tout cas, je le sais. Alors, est-ce que la droite est un bon enseignement, ou la droite, ou la gauche? Alors, c'est vraiment... où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qu'on doit faire? Et les maîtres zen ont cette capacité de toujours nous ramener en fonction de là où on est ou là où on n'est pas encore. Et prendre un enseignement du Bouddha, sans en comprendre le contexte, c'est se faire mordre par le serpent et on peut en mourir. Tous les enseignements du Bouddha sont donnés dans des contextes très précis. Ce ne sont pas des... Oh, je ne me souviens pas de comment nous le récitons dans les 14 entraînements. Ce ne sont pas des réalités pour lesquelles se battre ou mourir pour. Parce que ce ne sont pas des réalités absolues. Ce sont des remèdes. Ce sont des prescriptions. Ce sont des médicaments pour nous aider à nous sortir de nos souffrances. Et c'est pour ça que lorsque nous étudions, nous apprenons, nous pratiquons les enseignements du Bouddha, nous nous ramenons toujours aux quatre nobles vérités. La souffrance existe. Ok, il y a celle des autres, mais ça c'est eux. Nous, c'est quoi ma souffrance? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Si elle est là, pourquoi elle est là? Voir et comprendre les raisons de nos souffrances et trouver les moyens de nous en sortir, c'est l'enseignement des quatre entraînements, des quatre nobles vérités. Et encore là, vous voyez, si on s'accroche à la première, et qu'on ne veut pas la lâcher. Ok, je souffre. Je souffre, pauvre moi. Ok, je souffre. Je souffre. Good. Ne reste pas là. Vous voyez, ça c'est un exemple de lâcher le radeau. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours y rester. Ça ne veut pas dire qu'elle doit toujours rester réelle. Et l'enseignement, c'est de faire en sorte que ça se transforme. Et c'est le lâcher. Lâcher le radeau. De la même façon, lorsque le Bouddha nous a enseigné le non-soi, c'est parce que nous avons vécu toujours avec le soi. Nous sommes dictés par le soi et c'est seulement à partir de ça que nous regardons et que nous voyons le monde et que nous opérons. Et c'est ça aussi qui a créé, qui a causé ou qui a été à la source de nos souffrances. C'est le soi. Et aujourd'hui, je vous dis, revenez à vous. C'est vous qui êtes important. Alors, est-ce que c'est le soi qui est important ou le non-soi qui est important? Et c'est cela l'enseignement du Bouddha. Si tu es pris dans le soi, laisse le soi puis prends le non-soi. Mais si tu es pris dans le non-soi, tu as un problème aussi. Parce que tout d'un coup, si tu t'oublies puis que tu n'es plus là, Et le Bouddha a proposé un troisième enseignement, où il y a la troisième vérité, ou bien je ne sais pas, c'est la troisième quoi, Rigi? Le soi, le non-soi, puis le... Puis? Quoi? Les trois sauts du Dharma, on l'a étudié aussi. C'est le sutra du diamant. Les illusions, les concepts, les idées. C'est très important, c'est très bon. Mais il faut les lâcher. Et les lâcher, ça ne veut pas dire s'en débarrasser. Parce que c'est très utile. Et j'aime utiliser le mot, peut-être, le coffre à outils. Des fois, on a besoin d'un tournevis. D'autres fois, on a besoin d'une drill. Puis d'autres fois, on a besoin d'un ciseau. Ou d'une scie. Elles ont toutes leurs utilités. Alors on s'est monté un coffre d'outils. Et c'est tout ça, les coffres d'outils que nous avons. Il n'y a aucun qui ait une vérité inaltérable là-dedans. Mais toutes ont leur utilité. Comment, quand s'en servir? À bon escient. C'est ma compréhension de ces enseignements. C'est ma compréhension du lâcher le radeau. Ce n'est pas les lâcher. Ouais, c'est les lâcher, c'est-à-dire ne pas s'y accrocher. Mais ça ne veut pas dire s'en débarrasser. Ça veut juste dire ce que ça dit, lâcher, relâcher. Être ouvert pour mieux comprendre, pour mieux voir la toile d'Indra, l'univers, the endless possibility. Être là, gros coffre d'outils, comment je me sens. Ah, je prends cet outil, there I have it. Ou bien, ça va?
Oui.
Donc, l'enseignement du Sutra du Dhyama. Le Dhyama qui est précieux, qui est pur, dur, tranchant, et qui nous permet de couper en travers de toutes nos illusions, des illusions qui nous maintiennent dans l'ignorance et qui alimentent notre souffrance. Et le Dhyama nous enseigne c'est quoi les enseignements les plus importants du sutra du Dhyama? Okay. Les fausses perceptions. Alors l'enseignement du... c'est quoi le plus important pour toi, Gilles? Good, like it. Julie. Ok. Tout ça. Vous, Monique? Oui. C'est tout ça l'enseignement du Sutra du Dhyama. Interdépendance, inter-être. Ceci est parce que cela est. Rien ne peut exister comme une entité séparée, indépendante. Tout dépend de tout le reste. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'enseignement du cœur de la Prajnaparamita, ce chant que nous avons chanté ensemble. Et que j'invite nos amis à réciter à chaque matin. Le tout est vide. Tout est vide. Alors donc, c'est un enseignement très important du Sutra du Dhyama, la Prajnaparamita. Avec la Prajnaparamita vient la non-discrimination. Parce que si nous savons que le blanc est fait du noir et que le blanc ne peut pas exister sans le noir et que les deux ne peuvent que coexister, nous ne pouvons pas discriminer parce que nous savons que les deux se supportent et se soutiennent et l'un est fait de l'autre et vice-versa. Mais comment pouvoir comprendre ces... Et lorsque je dis comprendre, c'est encore un piège des mots. Prajnaparamita est traduit comme compréhension parfaite. Mais compréhension, nous pensons toujours que ça veut dire réflexion, réfléchir. Et comprendre. Mais comprendre dans le sens de la Prajnaparamita, c'est voir, c'est savoir. C'est voir et savoir dans le même sens que, c'est qui l'a dit, Saint Francis? Be still and know. Assis-toi. Comment vous traduirez be still and know? Oh. Ça, c'est quelque chose que, comme chrétien, vous devez savoir. Saint-François, Saint... Ben, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est très fameux. Je veux dire, je ne sais pas où, mais je vais le retrouver bientôt. Tantôt, quand je vais me reconnecter sur Google. Mais... No, be still and know that I'm God. Quelque chose du genre. Quelqu'un l'a dit. Quelque chose du genre, oui, ok. Okay. Alors donc, la compréhension parfaite, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec des études et puis des discussions et des thèses de doctorat. C'est une vision profonde, une compréhension parfaite. Et c'est cela que nous parvenons, ou bien c'est cela. Tu vois, lorsque je dis parvenir, je parle d'une fin, alors qu'il n'y a pas de fin non plus. Et donc, j'arrive vraiment à l'essence. Tout ce dont nous avons parlé, c'est des essences, différentes essences, et à chaque jour, ça change pour moi aussi. Mais l'une des choses que je me souviens de ce sutra-là, Are you sure? Et la réponse est oh, si je m'attrape à être sûr ou bien à croire en quelque chose, il faut que je le lâche. Et c'est ça l'enseignement du Sutra du Diamant pour moi, aujourd'hui, maintenant. Alors oui, ça comprend toutes les autres choses, interbeing, impermanence, les trois sauts, les sept facteurs d'éveil, tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on dit, lâchez prise, lâchez le radeau. Et je parle du coffre d'outils. Et je parle de la pharmacie. Et pharmacie, ça c'est un autre bel exemple, n'est-ce pas? On a un choix de prescriptions et de pilules. Lesquelles prendre? Quand les prendre? La transcendance des notions. Le nirvana. La transcendance et l'effacement de toutes les notions et croyances. La liberté. Ça va, Gilles? Gilles m'a posé la question en septembre. Comment vous allez le faire? Comment vous allez... On s'en reparle. Okay. Mais c'est un sutra qui est... que j'adore. C'est un sutra qui est très puissant. C'est un sutra qui est un des sutras les plus importants de notre pratique dans la... Et là, je fais de la discrimination, mais il faut bien parler de en utilisant des mots. Mais nous sommes dans la tradition Mahayana. Mahayana, c'est une tradition qui est née plusieurs siècles après le départ du Bouddha, après le Parinirvana. Et c'est une façon de penser qui était révolutionnaire. et qui était en réaction contre les institutions bouddhistes qui étaient tenues et détenues et tenues, détenues en exclusivité par les monastiques. Et les monastiques étaient devenus tellement accrochés aux mots et aux enseignements de ceux qu'ils considéraient comme les purs enseignements du Bouddha, parce que ça venait des paroles du Bouddha. Et juste en le faisant de cette façon-là, ils ont trahi complètement l'idée du bouddhisme, parce que le Bouddha n'a jamais dit que mon enseignement, ce sont mes paroles. Alors, pour pouvoir briser cela, un groupe de monastiques et de pratiquants ont parti ce qu'on appelle le Mahayana. Et nous sommes encore dans cette veine. Et mon maître, c'est aussi un maître Mahayana. Un maître Mahayana, c'est-à-dire, nous suivons la voie des bodhisattvas. Et donc, le plus important, parmi les plus importants, c'est cette notion de bodhisattva. Et nous en avons parlé au début, lorsque nous avons commencé à étudier le Sutra du Lotus. Les bodhisattvas, ce sont ces êtres illuminés. Ce sont ces êtres qui ont compris. Et qui ont compris que la souffrance existe et que la souffrance fait mal. Et qui ont une compréhension et une grande compassion. Et qui se sont donnés comme objectif de leur pratique et de leur vie de sauver tous les êtres de la souffrance. Alors donc la notion de bodhisattva, cette notion de compréhension, cette notion de compassion, cette notion de service est au cœur de cet enseignement. Alors lorsque nous pratiquons, nous étudions le Sutra du Lotus, nous nous rappelons que nous le faisons dans ce contexte. Ce n'est pas des études strict mais c'est vraiment quelque chose qui est ouvert et comme des bons étudiants nous ne nous satisfaisons pas de cela mais nous allons continuer de l'ouvrir encore. Et c'est cela l'esprit du bodhisattva, c'est cela l'esprit du bouddhisme engagé, et c'est cela aussi l'esprit du Bouddha. Cet enseignement, la pertinence de l'enseignement, c'est seulement lorsqu'elle peut s'appliquer dans la situation et dans le temps. Nous n'étudions pas cet enseignement pour pouvoir en parler, pour pouvoir discuter ou bien pour pouvoir acquérir plus de connaissances. Nous l'étudions, nous le pratiquons, nous l'adaptons à la circonstance du lieu et de l'endroit. La notion de bodhisattva. La souffrance qui provient de nos attachements ou bien de notre attachement à nos idées et à nos croyances et à nos concepts. Les quatre concepts que le sutra nous enseigne à lâcher, c'est lesquels, Gilles? Le soi. L'homme. Les espèces vivantes. Et la durée de vie. Mais vous voyez comment le sutra est quand même limité, parce qu'il ne parle que de quatre concepts, et il nous enseigne de lâcher ces quatre concepts. Mais lorsque nous savons comment nous devons lâcher ces quatre concepts, nous comprenons que ce ne sont pas juste ces quatre concepts qu'il faut lâcher, mais c'est vraiment arriver à l'enseignement du serpent et l'enseignement du radeau, pour comprendre que nous prenons un enseignement, nous pratiquons investigative discrimination, l'analyse, nous regardons, nous voyons, nous comprenons, nous l'assimilons, nous pratiquons, parce que c'est très important de pratiquer pour pouvoir comprendre. Il y a une chose comprendre intellectuellement, mais l'amener en nous, puis le pratiquer, en fait une compréhension réelle. Les travaux de laboratoire, les labs. Mais une fois qu'on l'a compris, pratiqué, et qu'on en a obtenu les fruits, c'est le radeau qu'il faut lâcher. On a traversé la rivière, laissons-le. Et mettons-nous à utilisons notre intelligence pour nous monter une bicyclette pour pouvoir faire le reste du chemin, ou bien n'importe quoi, mais lâchons le radeau. Alors donc, on parle des quatre concepts, mais ce ne sont que quatre exemples. Et c'est ça que les maîtres qui ont écrit le sutra ont voulu dire. Le concept du soi. Monique vient de nous parler de l'interdépendance et de l'inter-être. Alors le soi et le non-soi, c'est cette réponse-là. Mais lorsqu'on est pris avec cette réponse, il faut aussi faire attention parce qu'on est peut-être pris avec un autre piège ou bien dans un autre piège qu'il faut aussi lâcher. La notion de... C'est quoi le deuxième que j'avais mentionné? De l'humain. Alors, ou bien on se croit toute seule dans notre personne, ou bien on croit qu'on est la seule espèce. Et on oublie qu'on fait aussi partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand. Et parmi l'ensemble qui est beaucoup plus grand, il y a notre mère, la Terre. Mais on ne comprend pas qu'on est très interdépendant avec la Terre. Et que si on ne fait pas attention, elle va mourir aussi. Et lorsqu'elle va mourir, ben nous, on n'a aucune chance. Mais, ou bien on se croit tout seul comme un soi, ou bien on se croit qu'on est la seule espèce qui a droit de régner sur tout le reste et d'exploiter tout le reste, ben c'est cet enseignement aussi qui est là pour nous dire, hey, comme humain, tu dépends de tout ce qui est non humain. Mais il poursuit l'enseignement encore un peu plus loin. Puis il dit, lorsqu'on parle de humain puis non humain, on parle d'être vivant. Et puis on peut oublier que les êtres vivants, c'est-à-dire nous, nos chats, nos chiens, nous dépendons aussi de ce qui n'est pas vivant. Comme par exemple le pétrole. Alors donc c'est le troisième concept qu'il faut oublier, c'est que les êtres vivants. Et le quatrième concept que le sutra nous enseigne de laisser, c'est le concept de durée de vie. On pense qu'on est né à une certaine date et qu'on va mourir à une certaine date. Et l'enseignement que Lily vous a donné, c'est la vague et l'eau. Une vague commence et grandit et dépérit. Mais l'eau est là toujours, et nous avons toujours été là, et nous serons toujours là. Et c'est le quatrième concept. Et il est 11h58. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être là. L'année prochaine, nous allons... reprendre en septembre avec la série des journées de pleine conscience et des retraites. Et le thème, le sutra de l'année prochaine sera le sutra du lotus. C'est ça? Le programme est déjà sorti. J'ai les dates et les titres des journées pleines conscience. Et je voudrais, et cette année, durant l'été, avant septembre, nous voudrions aussi nous offrir une retraite urbaine. C'est-à-dire avoir une retraite ici, dans ce local, qui débuterait vendredi soir, vendredi après le après-midi, vendredi soir, qui durerait toute la journée et qui continuerait toute la journée du samedi et le dimanche jusqu'à fin d'après-midi. On voudrait faire l'expérience. On voudrait faire l'expérience, c'est une sorte. En fait, j'en ai fait l'expérience. Ça fait plusieurs années que je la fais, que je fais cette chose aux États-Unis. Il y a à Boise, Idaho, ils le font sur 5 jours. À Pittsburgh, ils le font sur 4 jours. Et 4 jours et 5 jours dans un hôtel, ça coûte cher. Alors qu'on a un beau lit à la maison. Alors c'est ça qu'on avait décidé pour pouvoir offrir les expériences de retraite à moindre coût et aussi surtout sur ces durées prolongées. Alors nous sommes en retraite et nous rassemblons dans une place comme ici et nous faisons tout ce que nous faisons dans une journée de pleine conscience ou dans une retraite. La différence c'est que nous rentrons chez nous. Et le challenge, c'est de poursuivre la retraite chez nous. C'est un challenge, mais c'est un plus parce que c'est une façon pour nous d'apprendre à faire de notre chez nous un endroit de retraite. Il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas l'être. Ou bien que ça ne le soit pas. Et si nous pouvons le faire dans le contexte d'une retraite de 4 jours ou de 5 jours, pourquoi nous ne le ferions pas les autres journées qui ne sont pas des retraites? Et est-ce que ça ne serait pas merveilleux de pouvoir rentrer chez vous à chaque soir dans un lieu de retraite? Et c'est ça que je voulais, que je voudrais nous inviter à expérimenter cet été. Le faire une fois pour voir si on peut le faire. Et si on peut le faire, on va le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a un local qui est superbe. On peut tout faire ici. Le local est déjà payé. Il est très cher. Très difficile à payer, mais il est déjà payé. On dépense chaque année 12 000 $ pour aller à la Villa Saint-Martin. On va continuer de l'offrir parce que c'est ça que nous avons fait, c'est ça que plusieurs aiment. Nous allons continuer de l'offrir. Mais si nous pouvons faire ça ici aussi en plus, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Et si on s'aperçoit à un moment donné qu'on peut le faire ici au lieu de là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas non plus ici au lieu de là-bas, etc. Alors donc, s'il vous plaît, pensez-y et supportez-nous, appuyez-nous dans ce projet avec votre participation. Parce que je ne peux pas le faire tout seul. En fait, je le fais déjà tout seul lorsque je suis à Montréal. Je viens ici et je dors ici. Et ça devient mon centre de pratique et ma pratique. Essayons-le. D'accord. Oui, madame. C'est quelque part au mois d'août, mais ça sera sur notre site web. Et lorsque vous êtes aussi sur notre email, sur notre liste, on va vous avertir. Merci. OK, merci beaucoup. Nous allons continuer de vivre dans la pleine conscience, heureux ici et maintenant. Merci.